VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du vendredi 27 avril 2018. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia.
Et Jean-Roger Billon.
Pour commencer, les titres.
Au Mali, le ministère de la Défense réagit aux accusations de malversations financières concernant les achats d'avions militaires.
En Guinée, réaction à l'affaire de corruption dans ce pays et au Togo, en rapport avec Vincent Bolloré.
Au Cameroun, l'armée a signalé hier un autre enlèvement cette semaine en zone anglophone.
Sommet historique aujourd'hui entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Mike Pompeo est maintenant le nouveau chef de la diplomatie américaine après le vote au Sénat hier.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, le ministère de la Défense et des anciens combattants a réagi aux dénonciations du Parrainat sur l'achat des avions militaires et autres équipements pour les FAMA, les forces armées maliennes. Il soutient que tout a été fait dans le respect des procédures en vigueur. À Bamako, les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
Le Parrainat attaque le ministère de la Défense et des anciens combattants en réplique à travers son service de communication. Pour eux, tous les avions ont été achetés en respectant les procédures et les règles de procédure en matière de marché public. Pour l'achat des avions, une équipe technique a été mise en place et les achats ont été supervisés par le ministère de l'Économie et des Finances. Pour les confrères communicateurs, aucun avion n'est en mauvais état, encore moins des vieux appareils. Les services de communication avoue qu'il n'est pas au courant que des avions soient mauvais parce que les appareils fonctionnent bien. Actuellement, les pilotes sont en formation avec les avions, sinon il n'y a aucun problème, explique un communicateur du ministère de la Défense. Avant d'ajouter qu'au moment où le Parrainat tenait sa conférence, l'armée avait réceptionné d'autres équipements militaires, des blindés, dit-il, et des voitures qui peuvent faire le déminage. Au dire du service de communication, les achats des avions militaires pour les FAMA ne souffrent d'aucune opacité, car tout a été fait dans la plus grande transparence et le ministère des Finances et de l'Économie peut attester. Pour terminer, ils disent qu'aucun achat n'a été fait en cash, encore moins avec de l'argent liquide. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, l'affaire Bolloré suscite des réactions. L'homme d'affaires français a été placé en garde à vue mardi à Nanterre et mis en examen dans un dossier de corruption en Guinée au Togo. L'information révélée par le journal Le Monde ne laisse pas indifférents les cadres guinéens proches de l'attribution de la concession portuaire à Conakry. Notre correspondant Zakaria Camara fait le point.
Quelques heures après la mise en examen de Vincent Bolloré, l'occasion est opportune pour éclairer la lanterne des journalistes. La Guinée n'est pas directement mise en cause dans cette affaire. Si cela arrivait, nous saurions nous défendre, prévient Elhadj Mohamed Lamine Fofana. Le chef de la commission d'enquête dans l'affaire Jetma a aussi fait remarquer que la Guinée doit défendre son image dans le dossier Bolloré.
Dans cette affaire, c'est la Guinée qui a attaqué, n'est-ce pas, dans son honneur, pour avoir été utilisé comme un centre de corruption pour attribution de marché. Jetma, c'est l'attribution. Il faut qu'on explique dans quelles circonstances il a intervenu. Vous dites qu'il n'y avait aucune question sentimentale ou personnelle.
Jetma International a vu son contrat de concession du terminal à conteneurs du port de Conakry annulé en 2011 au profit de Bolloré Africa Logistique du groupe Bolloré. La même explication depuis le début de l'affaire Jetma a été entendue ce jeudi. La société a menti sur ses compétences et expériences pour obtenir la concession du terminal à conteneurs du port de Conakry, informe à son tour André Camara, directeur général de Minerve Consulting. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
Au Cameroun, l'armée a indiqué hier que deux civils camerounais ont été enlevés mardi par des hommes armés à Mbalangui, dans la région anglophone du sud-ouest. Il s'agit d'un représentant des brasseries du Cameroun et de son chauffeur. Leur camion chargé de casiers de bière a été retrouvé par des éléments de l'armée camerounaise, selon une source qui ajoute que des recherches étaient encore en cours jeudi soir. Depuis trois mois, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest anglophone, les groupes séparatistes armés multiplient les actions violentes contre les symboles de l'État camerounais, attaques de gendarmerie, enlèvement de fonctionnaires, accrochages avec l'armée.
L'homme fort de l'est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, est rentré hier à Benghazi dans l'est après une hospitalisation d'au moins 2 semaines à Paris, a assuré qu'il était en bonne santé. Monsieur Haftar n'était plus apparu en public depuis un certain temps et aucune photo récente de lui n'avait été publiée, nourrissant des rumeurs sur son état de santé. Et rumeurs qui avaient inondé donc les réseaux sociaux en Libye. Des médias libyens et étrangers avaient même annoncé sa mort, malgré les démentis répétés de son porte-parole et de ses proches, ainsi que celui de l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. La durée exacte et la raison de son hospitalisation ne sont pas connues.
Les États-Unis ont soumis jeudi à leurs partenaires du Conseil de sécurité un projet de résolution révisé sur un renouvellement de la mission MINURSO au Sahara occidental qui ne porte plus que sur 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 octobre, alors que la première version prévoyait le 30 avril 2019. Un vote sur la résolution pourrait intervenir dès ce vendredi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Sommet historique entre Kim Jong-un et Moon Jae-in. Le dirigeant nord-coréen et le président sud-coréen étaient réunis aujourd'hui à l'occasion d'un sommet historique après une poignée de main hautement symbolique sur la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule. « Je suis heureux de vous rencontrer », a lancé M. Moon Jae-in à son homologue tout sourire. Celui-ci a alors franchi la ligne de démarcation en béton, devenant le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée de 1950 à 1953. À l'invitation de M. Kim, les deux dirigeants ont brièvement marché du côté nord-coréen de la frontière avant de se rendre à pied à la Maison de la Paix, une structure de verre et de béton située dans la partie sud du village de Panmunjom, où fut signé l'armistice.
Oui, je suis venu ici déterminé à donner un signal de départ au seuil d'une histoire nouvelle, a déclaré M. Kim au début du sommet, se déclarant inondé par l'émotion. Il a fait le vœu de garder un état d'esprit franc, sérieux et honnête. L'arsenal atomique nord-coréen figure en bonne place au menu et M. Moon a espéré conclure un accord audacieux afin d'offrir à l'ensemble du peuple coréen et aux gens qui veulent la paix un grand cadeau. Ce sommet doit être le précurseur d'un face-à-face très attendu entre M. Kim et le président américain Donald Trump.
3 jours après son homologue français Emmanuel Macron, le président Donald Trump reçoit ce vendredi la chancelière allemande Angela Merkel. On s'attend à ce qu'ils abordent les mêmes désaccords sur des questions clés, du dossier nucléaire iranien aux tarifs douaniers.
Mike Pompeo, ancien chef de la CIA, a été confirmé hier par le Sénat américain au poste de secrétaire d'État. Il remplace Rex Tillerson, limogé par le président Donald Trump. Le point, Abdourahmane Dia.
Ancien militaire de 54 ans, à la tête de l'agence de renseignement CIA depuis janvier 2017, Mike Pompeo a été confirmé par 57 voix pour et 42 contre en séance plénière. Considéré comme un faucon, le nouveau chef de la diplomatie américaine doit participer ce vendredi à une réunion de l'OTAN à Bruxelles avant d'aller en Arabie Saoudite, en Israël et en Jordanie. Né en Californie, major de sa promotion de la prestigieuse école militaire de West Point, Mike Pompeo a fait des études de droit à Harvard. Il devra se saisir de 2 dossiers brûlants, notamment la Corée du Nord et l'accord sur le nucléaire iranien. Il a déjà rencontré pendant le week-end de Pâques le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en vue du prochain sommet entre Donald Trump et le leader nord-coréen. Critiquant ouvertement l'accord signé en juillet 2015 sur le nucléaire iranien, le président Trump doit se prononcer le 12 mai sur ce texte. Cette semaine, le président français Emmanuel Macron a proposé la renégociation d'un accord complémentaire, ce que rejettent déjà Téhéran et Moscou.
L'acteur américain Bill Cosby a été reconnu coupable hier d'agression sexuelle sur Andrea Costin en 2004 par un jury populaire de Pennsylvanie. Le point avec Raissa Gérondin.
Le comédien de 80 ans a été déclaré coupable de 3 chefs d'accusation et risque 30 ans de prison. La victime, Andrea Constant, était présente dans la salle d'audience pendant le prononcé du verdict après 14 heures de délibération. Auparavant, Bill Cosby avait été accusé d'agression sexuelle par plus de 60 femmes. Ces allégations ont été toutes prescrites, sauf celles concernant Andrea Constant. En juin 2017, à l'issue de 52 heures de délibération, le jury du premier procès n'avait pu se prononcer à l'unanimité, entraînant son annulation. Entre ces deux procès, l'affaire Weinstein, célèbre producteur à Hollywood, et le mouvement MeToo ont alourdi le contexte, devenu très défavorable à Bill Cosby, fondateur du Cosby Show.
Une visite au Royaume-Uni du président Donald Trump, jusqu'ici repoussée de crainte de manifestation, aura finalement lieu le 13 juillet prochain, a annoncé jeudi le gouvernement britannique qui compte sur son allié américain pour l'après-Brexit. Cette visite se déroulera dans la foulée d'un sommet de l'OTAN les 11 et 12 juillet à Bruxelles.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Forte croissance des smartphones en Afrique. Quelques 660 millions d'Africains devraient être équipés d'un téléphone intelligent d'ici 2020. Son nombre a pratiquement doublé par rapport à 2016. Les pays les plus avancés en matière de technologie sur le continent sont le Rwanda et le Ghana, tandis que le Niger ou le Burkina Faso figurent parmi les moins avancés. L'illettrisme freine l'utilisation des nouvelles technologies sur le continent. Sidi Diop, du cabinet Deloitte à Dakar, estime qu'il faudrait que l'Internet se généralise principalement en milieu rural pour investir dans l'éducation. Le Ghana relance le système national d'assurance maladie. Le président Nana Akufo-Addo a déclaré qu'elle croulait sous le poids d'une énorme dette. Le gouvernement a déjà apuré 250 millions de dollars dus aux prestataires de services. D'après M. Addo, le système retrouve son efficacité et les assurés peuvent avoir accès à un large éventail de services médicaux pour un montant minimum. La compagnie nationale mozambicaine d'hydrocarbures envisage de lever 2 milliards de dollars cette année. Elle veut refinancer deux projets de développement gazier. Les recettes issues de l'activité de ces champs gaziers devraient permettre à Maputo de rembourser une dette extérieure commerciale de 2 milliards de dollars qui était arrivée à échéance en 2016.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Que de regrets pour Arsenal hier en demi-finale allée de l'Europa League.
Quasiment une semaine après l'annonce du départ d'Arsène Wenger en fin de saison, Arsenal a eu largement le dessus sur l'Atlético Madrid, mais a beaucoup trop gâché. 27 tirs contre 6 pour les Colchoneros et 75% de possession pour un seul petit but. On se demande bien où étaient les Colchoneros avant que Griezmann ne surgisse à la 82e minute pour arracher le match nul d'un but partout. Eh bien, deux d'entre eux étaient en tout cas dans les tribunes dès le quart d'heure de jeu, le défenseur Vlasco et le bouillant entraîneur Diego Simeone qui avait déjà vu rouge.
Dans l'autre demi-finale, Marseille s'est rapproché de la finale.
Tout à fait Idrissa, les Phocéens se rendront dans une semaine en Autriche pour chercher la 5e finale continentale de leur histoire avec un avantage de 2 buts grâce à Florian Thauvin à la 15e minute et le Camerounais Clinton Dji à la 63e. Même s'ils ont souffert par séquence, les hommes de Rudy Garcia ont su faire le dos rond et se montrer plus réalistes que les Autrichiens de Salzbourg dans un vélodrome bouillant.
Athlétisme, nouveau règlement à l'encontre de certaines athlètes.
Il s'agit des athlètes féminins possédant un taux de testostérone au-dessus de la normale. Elles devront prendre des médicaments 6 mois avant les compétitions pour avoir un taux de testostérone normal. Une nouvelle qui renvoie à une athlète, la sud-africaine Caster Semenya, championne olympique du 800 mètres. Au dernier jeu du Commonwealth en Australie, elle a encore écrasé la concurrence et ravivé la polémique. La sud-africaine a déjà subi de nombreux tests pour prouver sa féminité depuis son apparition sur les pistes. Le nouveau règlement sera appliqué aux athlètes féminins qui disputent des compétitions du 400 mètres et plus, et ce, à partir du 1er février 2018. NBA, pour terminer avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en play-off.
Milwaukee a remporté devant son public le match numéro 6 de son duel du premier tour des play-offs NBA face à Boston jeudi 97 à 86. Il faudra attendre le match numéro 7 samedi pour connaître le prochain adversaire de Philadelphie, qualifié pour le deuxième tour depuis mardi, après avoir dominé Miami, 4-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les ministres en charge des affaires religieuses et du culte des pays du G5 Sahel sont réunis à Ouagadougou pour réfléchir sur la question de l'extrémisme religieux. Cette rencontre de haut niveau porte sur des résolutions actualisées visant à combattre le mal à la racine. Des détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Les ministres des affaires religieuses des cinq pays qui sont le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, membres du G5 Sahel et des experts, veulent trouver la parade pour vaincre la radicalisation et infléchir la montée de l'extrémisme violent. Leur méthode, procéder autrement que par les muscles pour prévenir efficacement cette radicalisation et venir à bout de l'extrémisme violent, notamment en dialoguant afin de détruire les formatages de l'esprit sur le terrain culturel et religieux. Les experts vont passer au crible les résultats acquis depuis la déclaration de Niamey, qui adoptait une résolution invitant les différents gouvernements à œuvrer dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, notamment religieux. Des paramètres qui ne sauraient être occultés par le G5 Sahel, explique le ministre burkinabé en charge du culte, Siméon Sawadogo.
Il y a deux éléments essentiels. Au niveau religieux, aucune religion ne prêche le mal. C'est ceux qui portent la religion, c'est dans leur compréhension, la perception de la religion qui pose problème. Donc nous avons le devoir de travailler à ce que la perception à la base, que ce soit au niveau des imams, ou des pasteurs, que ce soit au niveau donc de ceux qui officient au niveau traditionnel, que ce soit au niveau donc des prêtres, que chacun puisse dans ses prêches travailler pour la paix, parce que l'État ne peut plus ignorer le fait religieux dans ses orientations et dans ses politiques. Le deuxième élément important, si économiquement il n'y a pas des infrastructures sociales, il y a des problèmes à ce niveau-là et ça, c'est la responsabilité des gouvernants, avec leurs partenaires techniques et financiers, de travailler à ce que ces activités socio-économiques-là puissent être viables au niveau de cet espace afin que ça ne soit pas le terreau donc des extrémismes.
Des partenaires techniques et financiers qui se tiennent au plus près des acteurs afin d'accompagner ce processus, confie l'ambassadeur Jean Lamy, chef de la délégation de l'Union européenne à Ouagadougou.
Nous sommes tous convaincus que il y a beaucoup de choses à tirer de l'échange d'expériences des différents pays du G5 pour une laïcité intelligente.
Si l'action militaire actuelle du G5 Sahel reste l'option majeure, il est temps pour les États d'explorer en profondeur la question de la laïcité et de s'impliquer davantage sur les questions culturelles et religieuses, indique le ministre malien des Affaires religieuses et des cultes, Thierno Amadou Oumar As Diallo.
On a pris du temps à comprendre que la source du mal vient de l'esprit de l'homme et que c'est donc dans l'esprit de l'homme qu'il faut le combattre. Nous vivons un mal, le terrorisme, nous vivons un mal, l'extrémisme violent, mais ceux qui nous l'ont apporté ne sont pas des militaires, c'est des leaders religieux qui donnent un mauvais discours à une religion de paix et d'amour.
Kumurewa Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les chefs religieux du Cameroun ont visité des villes le long de la frontière avec le Nigeria cette semaine dans le but de freiner les efforts de recrutement de Boko Haram. Le correspondant de la Voix de l'Amérique, Moki Edwin Kinzeka, s'est rendu à Mora pour ce reportage relaté ici par Jacques Aristide.
Des prières sont dites dans une mosquée de Mora, dans le nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. L'imam Abou Hamatoukour est originaire de la ville voisine de Garoua. Il participe à un programme de sensibilisation mené conjointement par des prédicateurs musulmans et chrétiens. D'après l'imam, Boko Haram essaie d'attirer les jeunes avec des promesses qu'ils iront au paradis s'ils meurent en combattant ce qu'ils appellent les mécréants.
La tâche est très lourde. Comme vous le savez, il faut renforcer la pratique de l'islam, que l'islam imams servent aux musulmans à parvenir au paradis.
Ce groupe d'imams et de prêtres exhorte la population, en particulier les jeunes, à rejeter la propagande de Boko Haram et à signaler les étrangers et les individus suspects à l'armée. Pour Hassan Naourma, un jeune homme de 26 ans, la sensibilisation a une signification personnelle. Son frère, qui avait rejoint Boko Haram, a été tué en novembre dernier lors d'un raid mené par la force multinationale mixte opérant dans le bassin du lac Tchad.
Nous avons eu l'occasion de recevoir des grands savants qui sont venus du Nigeria, qui sont très bien organisés et qui sont bien intégrés parce qu'ils maîtrisent comment gérer la communauté face aux défis actuels.
Cependant, lui et d'autres jeunes estiment que l'éducation religieuse seule ne suffit pas pour mettre un terme à un tel recrutement. Le conflit a ruiné l'économie locale, rendant l'emploi encore plus difficile à trouver. L'ancien combattant Amadou Bouba confie avoir du mal à survivre depuis qu'il a pu échapper à Boko Haram lors d'un raid militaire en décembre.
Je l'ai demandé à l'État pour nous aider à faire l'école, l'agent de scolarité, l'hôpital, les habits, le savon. On voulait que l'État nous aide avec ça. On est sorti avec rien.
En 2016, le Cameroun a lancé un programme pour aider les familles déplacées par l'insurrection de Boko Haram en donnant à chacune d'elles 2 chèvres et en essayant de créer des emplois pour les jeunes. Mais le défi est difficile à relever. Les combats ont déplacé des dizaines de milliers de personnes dans la région de l'extrême nord. Les gains militaires des 2 dernières années ont permis au commerce transfrontalier de reprendre lentement. Toutefois, de nombreux agriculteurs et éleveurs disent qu'ils ne peuvent pas encore retourner dans leur village en raison de pénuries alimentaires.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'activiste tchadien Maïdine Babouri a recouvré la liberté. La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de N'Djamena l'ayant relaxé mercredi pour infraction non constituée. Arrêté le 30 septembre 2016, il avait été inculpé d'atteinte à l'ordre constitutionnel et à l'intégrité territoriale et d'intelligence avec un mouvement insurrectionnel. Sa situation avait entraîné une forte mobilisation des activistes tchadiens sur les réseaux sociaux. Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena Jean Bosco Manga, porte-parole du comité de soutien à Maïdine Babouri.
Il aurait posté sur les réseaux sociaux une vidéo qui critique la gestion du pouvoir par le président de la République, la première dame et ses proches. Donc après cela, il a été détenu dans des endroits peu conventionnel, où il a subi des tortures de tout genre. Après cela, il a été déporté à Korotoro. Et de Korotoro, sa santé s'est sérieusement dégradée. On l'a ramené à Mossoro. Et je crois que c'est après plusieurs actions, dont Amnesty International, avec plusieurs organisations de droits de l'homme au niveau international et des personnalités, et qui a abouti aujourd'hui à sa libération.
Maïdine Babouri, avant son arrestation, était un proche un membre du parti au pouvoir, si je me souviens bien.
Il n'est pas seulement proche du parti au pouvoir, mais il fut l'un des plus jeunes soldats à l'entrée du MPS en 1990. Et c'était le plus grand soutien du régime. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que la ligne tracée par le régime depuis Bamina n'a pas été suivie Et à un moment donné, tous les proches du président se sont lancés dans des pillages à outrance de toutes les ressources communes du pays. Et lorsqu'il s'est mis à critiquer le régime, il a été arrêté et il a subi tout ce tort. Donc il a fallu 5 mois pour que le dossier puisse être réexaminé même par le juge d'instruction.
Votre campagne en faveur de Mahedine Babouri a abouti. Quelles leçons en tirez-vous?
Pour la première fois, nous nous sommes rendus compte que le peuple tchadien est en train de mûrir et nous sommes en train d'avancer dans le changement que nous cherchons. Parce que pour la première fois, tout le peuple tchadien a été unanime derrière un cas de violation des droits de l'homme. Et je vous rappelle que M. Babouri est détenu Zakawa, donc détenu du président de la République. Mais tout son soutien durant ce temps où il a été en détention, c'était le tchadien de toutes les communautés. Et la leçon aussi qu'on va tirer, c'est que pour la première fois, nous sommes en train de faire évoluer le droit.
C'était Jean Bosco Manga, porte-parole du comité de soutien à l'activiste tchadien Mahedine Babouri, joint à N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La ville du Cap, en Afrique du Sud, est une destination favorite pour les touristes étrangers. Mais ce qu'on ne voit jamais dans les pages de publicité, c'est que c'est l'une des villes les plus dangereuses du monde. Heidi Adams et Fitzpatrick ont été dans les quartiers pauvres où s'affrontent à mort les gangs. Un reportage rendu par Idriss Fall.
À Cape Flats, l'un des townships les plus pauvres de Cape Town, Zinaden Pelton, 14 ans, revenait de l'école lorsqu'il a été pris dans un essence de tir. Maurice Johnson Tem, grand-mère de la victime.
J'ai juste entendu des tirs et j'ai entendu quelqu'un crier. C'était Zinaden. Il était étendu par terre avec son sac sur le dos. Nous l'avons pris en toute vitesse à l'hôpital, mais sur place, j'ai vu qu'il était déjà parti.
La ville du Cap est la capitale du meurtre en Afrique du Sud avec un taux d'homicide parmi les plus élevés au monde. Le township de Cape Flats est l'épicentre d'une guerre sans merci entre gangs rivaux pour le marché de la drogue. Jean-Pierre Smith est responsable de la sécurité à Cape Town.
C'est une vie intolérable. Tout est sous pression. Vous ne pouvez pas mener à bien des programmes sportifs. Vous ne pouvez obtenir un investissement privé ni public. Vous ne pouvez pas créer d'emploi à cause du crépitement continu des balles.
Renforcé par le chômage et le désespoir, la culture de la violence et le dernier vestige de l'apartheid, des enfants parfois âgés de 9 ans sont recrutés dans des bandes qui leur offrent un sentiment d'appartenance. C'est un échange meurtrier d'un prêté pour un rendu dans un commerce de drogue. La police fait comme elle peut, sans beaucoup d'effets pour contrôler plus de 130 bandes armées. Pour réduire la violence, certains se tournent vers la technologie. ShotSpotter est un système développé aux États-Unis. Il permet de localiser à temps réel des tirs. L'information est envoyée dans un centre de surveillance qui opère 24 heures sur 24 et alerte directement la police. Le pasteur Craven Angel, dans un projet baptisé « Cessez le feu », il travaille avec d'anciens membres de gangs qui parcourent les rues pour faire cesser la violence.
Notre travail est d'aller vers le tireur, l'isoler, agir sur son comportement pour qu'il cesse de tirer.
Glenn Hans est volontaire dans ce projet.
Je faisais partie d'un gang, mais j'ai changé ma vie, non pas à cause de cesser le feu, mais j'avais besoin de changer. Là, ce ne sont que les bénéfices de ce changement. Travailler pour ma communauté et redonner à ma communauté.
C'est aussi devenir médiateur, aider les bandes à résoudre leurs divergences par la discussion et non par les armes. Il est sorti de prison, connaît le langage utilisé par les gangs et dans le même temps agir comme un membre de la communauté. Avec des photos d'enfants perdus dans la guerre des gangs, des mères se consolent et prient pour le changement, espérant qu'un jour peut-être voir la fin de la violence qui leur a pris tout. Sauf leur mémoire et leurs souvenirs.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console d'Earl Smith, merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Sims Lumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.